Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. On va avoir le plaisir de démarrer cette émission avec une spéciale La Bataille de Gaulle, deuxième volet. L'âge de fer qui va vous être proposé dans quelques secondes. Nous allons recevoir Antonin Baudry, le réalisateur, mais pas que, Félix Kizil, avec Simon Abkarian et le compositeur du film seront avec nous. Et puis spécial Camping Paradis, c'est les 20 ans de la série à cette occasion. Le couple terrible de la série Géraldine Lapalue et Patrick Guérino vont fêter 20 ans dans un épisode spécial ce soir sur TF1. Et bien, cette occasion, ils seront avec nous également dans quelques minutes. Puis nos coups de cœur télé cette semaine, consacré à un château en Espagne, film de Corinne Maziero qui sera diffusé mercredi soir sur France 2. Aïssa Maïga sera notre invitée pour en parler. Et puis, c'est Lucie Carrasco qui nous emmène pour un nouveau voyage sur France 5 mercredi soir et c'est en Thaïlande. Lucie Carrasco sera pour la première fois dans Chut, on écoute la télé avec nous pour en parler. Et puis, Ambroise Michel vous a fait flipper certainement dans la série Demain nous appartient. Il va revenir sur cette intrigue dingue qui s'est terminée par la mort d'Arthur. On va tout vous dire dans quelques instants. Et puis en fin d'émission, Permis de détruire, c'est le film à ne pas manquer mercredi dans les salles, le tout nouveau film d'Eric Fraticelli qui sera avec nous accompagné de Philippe Corti mais également de Michel Ferracci.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma est consacré à la bataille de Gaulle. C'est sorti juste vendredi dernier pour la deuxième partie. Et on a toute une partie de l'équipe qui est avec nous aujourd'hui, Antonin Baudry. Bonjour Antonin.
Bonjour.
Merci d'être là. On a le compositeur justement de cette deuxième partie, Théo Cassio, qui est avec nous. Bonjour Théo.
Bonjour.
On a l'habitude de l'émission, Félix Kizil, qui est avec nous deuxième fois cette saison. Bonjour mon cher Félix.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Simon Abkarian, qui est aussi un habitué, qu'on a grand plaisir à retrouver. Bonjour Simon.
Et bonjour.
Merci d'être là. C'est un projet absolument pharaonique auquel on assiste au cinéma depuis le 3 juin dernier avec la première partie qui était intitulée L'âge de fer. Là, c'est J'écris ton nom, la deuxième. Première chose que j'ai envie de demander, comment on se lance dans un projet aussi fou que celui-là, Antonin? Et Dieu sait que vous en avez déjà fait des projets fous.
Ben, avec passion et avec conviction et avec l'envie d'aller jusqu'au bout de ce à quoi on croit et ce qu'on a envie de montrer aux spectateurs, ce qu'on a envie de vivre nous-mêmes d'ailleurs comme spectateurs. Il n'y a pas d'autre guide quand on fait un film. Il n'y a personne qui est là pour vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, c'est juste ça le guide.
Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à une période de Gaulle qui est peut-être la plus méconnue, c'est celle de 40 à 44. Évidemment pour nous tous de Gaulle, c'est le général de Gaulle, c'est le président de la République, mais il y a beaucoup de choses effectivement dans ce personnage et d'une complexité des fois assez folle qu'on découvre dans ce film. Moi j'ai appris plein de choses par exemple en voyant ce film.
Bah moi aussi en le faisant. Moi c'est ce de Gaulle-là qui m'intéresse, le de Gaulle qui est déjà au sommet de sa gloire, qui utilise... ce qu'il a fait avant et son expérience pour faire des nouvelles choses, je le trouve très intéressant, mais pas autant que l'homme seul qui se retrouve face à une mission impossible et qui n'a aucune des qualités qu'il faudrait avoir pour pouvoir le faire. Parce que ça, pour moi, ça me rappelle moi et ça me rappelle nous tous. On est tous arrivés à un moment où on voulait faire quelque chose et où on s'est dit, bah en fait, j'ai pas la moindre idée de comment faire, je suis pas la personne qu'il faut pour le faire. Si vous regardez bien, De Gaulle, quand il est à Londres en juin 40, il voudrait incarner une autre France, qui est celle qui se bat, mais elle se bat pas. L'incarner, c'est bien, mais personne ne le connaît. Convaincre les Anglais, c'est bien, mais ils parlent pas anglais. Convaincre plus généralement le monde ou les Français, pour ça il faudrait avoir du charisme et savoir faire de la politique, et il a ni l'un ni l'autre. On s'est tous retrouvés dans cette situation d'être complètement à nu face à quelque chose qu'on veut faire. Ça peut être au niveau intime, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être avec notre voisin, peu importe. Et moi, la leçon que je retire, c'est que ce choix de s'acharner, ce choix de ne rien lâcher, il ne garantit pas le succès. On peut très bien échouer, mais il garantit que ça va nous grandir et ça va nous changer. Et c'est là où, pour moi, De Gaulle, qui est devenu une figure exceptionnelle en France, en fait, il n'est pas tant que ça, en réalité. Il est devenu exceptionnel de par sa volonté, de par les circonstances dans lesquelles il a été, et le fait qu'il a toujours, ou plutôt il n'a jamais renoncé à en être à la hauteur. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est quelque chose que j'avais envie de mettre en scène.
Simon, on se lance dans un projet comme ça, comment ? Justement, de quelle façon on s'y prépare à incarner un personnage pareil, qui demande 1h40 de maquillage tous les matins, qui demande effectivement pendant un an une pleine disponibilité pour être vraiment à fond dans ce personnage ?
Bah, on se penche sur l'affaire, mais vraiment, on se consacre qu'à ça, on pense qu'à ça. Et d'abord, on tremble en tant qu'acteur, dire comment, par où je vais passer. Ensuite, après lecture du scénario et de longues discussions avec le réalisateur qui est assis à ma gauche, enfin, je suis assis à sa droite, fait que ça vous non pas vous rassure, mais ça vous met sur un chemin qui va vous permettre de travailler. Bien sûr, la silhouette, bien sûr le costume, bien sûr le maquillage, mais la préparation, elle vient de loin, parce que ça fait longtemps que je me pose la question de l'incarnation. Quel que soit le personnage. Mais c'est vrai que celui-ci m'a demandé beaucoup plus, comment dire, non pas d'attention, mais de réflexion. C'est-à-dire, je joue De Gaulle, quoi. C'est pas le hallebardier du coin, quoi. C'est quelqu'un dont le nom résonne encore dans l'inconscient français. Donc, et en même temps, je dois me délester de toute espèce de peur et de toute espèce de crainte, et d'avoir la folie qu'il avait, lui, de vouloir sauver la France. Et moi, je dois récupérer cette folie-là et de dire, ben, je vais essayer de l'incarner.
Ça aide, cette préparation, justement, le matin, tout ce maquillage, de se mettre dans le personnage. Est-ce que ça t'a aidé, toi, Simon ?
Ah ben oui, parce qu'il a une silhouette, il a un masque. On a trouvé le masque de Gaulle. Il a une silhouette qui est celle de l'uniforme. Bien sûr que ça m'a aidé, mais c'est pas suffisant. C'est pas ça qui fait le travail. C'est pas seulement d'avoir les bons doigts sur les bons trous et souffler dedans l'instrument. C'est pas seulement ça qui fait. C'est aussi le souffle personnel qui m'appartient à moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de cette partition ? Comment on l'anime ? Comment on la rend vivante et chantante et dansante ? C'est parce qu'il y a de ça chez De Gaulle. Bien sûr que ça m'a aidé, mais encore une fois, il reste le mystère qui se produit que entre action et coupé. Et ce mystère-là, aucune préparation ne peut l'expliquer. Et c'est ce mystère-là qui aussi continue à m'animer en tant qu'acteur.
C'est bluffant, en tout cas. Alors, on y croise évidemment des personnages historiques dans ce film. Il y a 150 personnages, Antonin, dont celui de Jean Moulin, incarné par Félix.
Oui. La première chose dont je me suis rendu compte quand Antonin m'a proposé Jean Moulin, c'est que je le connaissais pas vraiment. Je savais évidemment qu'il avait été le chef de la résistance, je savais comment il avait fini, mais ce que le statut de chef de la résistance devait faire, moi je ne le savais pas. Et c'est d'abord en lisant le scénario que j'ai su ce qu'il avait fait, parce que ce film raconte ce qu'il a fait. Et moi j'avais cette trame-là, après j'avais besoin de savoir qui il était, donc je le saurais jamais évidemment complètement, mais du coup je me suis attaché à écouter les témoignages qu'avaient fait les gens qui l'ont connu, et notamment Daniel Cordier qui était son secrétaire pendant la guerre, et qui le raconte jour par jour dans un journal. Et voilà, c'était la chose en tout cas que je ne voulais pas trahir, c'était les gens qui l'ont connu.
On dit souvent qu'on, quand on va voir un film au cinéma, c'est assez rare aujourd'hui de se dire tiens, ça c'est un vrai film de cinéma, un vrai film fait pour le grand écran, un vrai film à partager tous ensemble dans une salle obscure. Des fois on se dit bon, il aurait pu être à la télé, ça aurait été pareil. Là, c'est un vrai film de cinéma et qui est magnifié en plus par la musique justement de Théo et dans le premier opus de Volker Bethelmann. Bertelmann, je vais y arriver. Et c'est vrai que c'est bluffant cette musique. Comment on la travaille? Comment tu t'y es pris, toi, Théo?
Eh ben, en grande discussion avec Antonin, avec Rayman et Henry, les monteurs, on a parlé de musique beaucoup, mais de musique de référence musicale, et on a parlé d'histoire. On a parlé de ce qu'on voulait raconter avec cette musique dans ce film. Et surtout, j'ai eu la chance d'avoir un casting d'acteurs incroyable. Franchement, on n'en parle pas assez, mais pour un compositeur, avoir des acteurs comme ça, sur qui il faut rajouter le supplément d'émotion qu'il manque à une scène, quand on a des acteurs comme ça, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc j'avais une bonne partie du boulot qui était fait à moi d'amener la dernière couche. Et toujours, voilà, je dis toujours depuis le début que je parle de cette musique, je l'ai trouvée avec cette équipe. Tout seul, je n'aurais jamais pu imaginer la musique qui est maintenant à l'écran.
Alors, souvent un film de cinéma, c'est 30-40 jours de tournage, ça c'est pour les plus chanceux, hein, c'est des fois même moins. Là, le tournage s'est étalé sur un peu plus d'un an, il y a un casting absolument fou. C'est 5h20 de film, quasiment.
5h.
Non mais c'est fou. Eh oui, parce qu'on arrive le générique, évidemment, on tourne pas pendant ce temps-là, mais c'est complètement dingue. Est-ce qu'il y a encore, malgré tout, des scènes qui n'ont pas été mises, ou qui n'ont pas pu être mises, tellement il y avait peut-être de choses de tournées, ou pas, ou vraiment là, t'as vraiment les deux films que tu voulais, Antonin?
Alors, j'ai vraiment exactement les deux films que je voulais. Ça n'empêche pas que, il y a une ou deux scènes que j'ai pas mises dans le film, non pas qu'elles étaient pas bien, et d'ailleurs, je pense que je les mettrai dans les bonus du DVD, mais parce que pour des questions de rythme, des questions d'enchaînement, j'ai trouvé que le film finalement était mieux sans, mais c'est très peu. En fait, on a utilisé à peu près tout ce qu'on a tourné. Et ça a été une longue aventure, ça a été une belle aventure. C'est une histoire, si vous voulez regarder, raconter l'histoire de la France libre et être un peu à la hauteur de ce qu'ont vécu ces acteurs, effectivement, ça demande des moyens de cinéma. C'est-à-dire que je crois que les moyens qui ont été déployés sont à la hauteur de l'aventure qui a été vécue par... les personnages qu'on représente à l'écran, et aussi de son importance dans notre histoire et dans nos vies. Donc moi je suis heureux en fait qu'on puisse faire des, comme vous le dites, des films de cinéma, des films qu'on a envie de voir sur grand écran. Je pense que c'est important que tous les pays du monde, et pas seulement les États-Unis, puissent représenter le monde. Je trouve qu'on vit dans une culture en France qui est de plus en plus dominée par la culture anglo-saxonne. Je trouve aussi qu'il ne faut pas en vouloir aux Américains. Il faut nous en vouloir à nous-mêmes. Il faut agir. Et donc montrer nos images. Pour moi, ces films, ils montrent des images manquantes. C'est-à-dire des images qui n'avaient pas été montrées et qui étaient importantes. Et je suis heureux d'apporter ces pièces du puzzle qui étaient manquantes.
Et c'est des pans d'histoire, effectivement, qui sont importantes aujourd'hui. Jugez plutôt, le casting est dingue. Nice Schneider, Thierry Lhermitte, Karim Leclou, Florian Lecieur, qu'on adore aussi, Benoît Magimel, Casey Motéclin, et plein d'autres. Félix Kizil, évidemment, qui est là, Anna Maria Bartholomé, plus de 150 personnages fous. L'avantage aussi d'avoir le volet 1 et 2 qui sortent à 3 semaines d'intervalle, eh bien, c'est que le 1 est encore en exploitation, donc vous pouvez effectivement voir le 1 si vous l'avez pas encore vu, vous êtes déjà plus d'un million à l'avoir découvert, et puis le 2, eh bien, vous pouvez vous le faire en suivant, donc n'hésitez pas à aller vous faire, voilà, deux belles séances cinéma. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que le film est sorti, qu'il appartient au public, à tous les quatre?
Je sais pas, Non, moi, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Je sais pas. Moi, je
voudrais qu'il y ait plein de jeunes qui. Je voudrais vraiment qu'il y ait plein de jeunes qui se l'approprient, qui y aillent, qui arrêtent de penser que Charles de Gaulle c'est une avenue à Paris, par exemple.
Mais je suis content de vous dire ça. Moi, j'aimerais bien, notamment, qu'il y ait les jeunes. Vous savez, les premiers qui ont montré un signe que les Français, il y avait des Français qui voulaient pas l'occupation nazie, c'est des lycéens. C'est la manifestation du 11 novembre 40. C'est quand même un fait frappant que ce soit des lycéens au péril de leur vie. Ben, j'aimerais bien que les lycéens le voient aujourd'hui. Or, le ministre de l'Éducation nationale actuel a refusé de voir le film. On lui a proposé 6 fois de le faire. Il veut pas parce qu'il a peur, dit-il, que les autres distributeurs lui en veuillent. Moi, je regrette ce choix. Je pense qu'on, ça serait bien que dans notre pays, on ait un ministre de l'Éducation nationale qui a un certain courage.
Exactement. Simon, le mot de la fin aussi.
Vous savez, on dit souvent en ce moment, vive la France. Ces combattants-là qui ont œuvré à cette époque-là, c'était des combattants pour la vie. Et quand ils disaient « Vive la France », ils disaient « Puisse-t-elle ne pas mourir, puisse-t-elle être éternelle ». Et l'éternité de cette France-là, je rejoins ce que dit mon camarade Antonin, l'éternité de ces France-là, de cette France-là, c'est la jeunesse, c'est cette génération qui arrive et qui sont parfois privés de ces images-là à leur corps défendant et à leur cœur défendant. Donc vive cette France-là.
Merci Simon. Un petit mot, Félix, pour terminer aussi.
Moi, je me considère encore dans cette jeunesse. Et ce qui m'a ému énormément, c'est finalement, on a l'impression que ça s'est passé il y a très longtemps, mais la liberté pour laquelle ils se sont battus, eux, c'est la mienne. Et donc, j'aimerais que nous redevenions conscients de nos libertés qui seront peut-être toujours fragiles.
Et c'est ce que j'allais dire avec les fragilités qu'on connaît actuellement. Théo, un petit mot de la fin, on va donner le mot de la fin au compositeur. Tiens, pour changer, ça change ça.
C'est dur de passer après tout le monde. Vive la France, vive la liberté, mais je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup d'émotions aussi, parce que finalement, je crois que c'est aussi pour ça qu'Antonin a fait son film, c'est pour l'émotion.
La musique y participe grandement, et tu le sais Théo, là-dessus, à provoquer des émotions dans un film. Merci à tous les quatre. De Gaulle, justement la bataille de Gaulle, deuxième volet, ça vient tout juste de sortir depuis vendredi au cinéma. L'âge de fer est encore dans les salles, n'hésitez pas à aller faire les deux si vous n'avez pas vu encore. Le premier, à bientôt, merci.
Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie.
L'armée du général Giraud reprend la main.
Vous ne comprenez rien à la politique.
Giraud est une marionnette des Américains.
Vous ne pouvez pas obstacler la guerre, général de Gaulle.
Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi.
I cannot deal with this crazy man. I cannot deal with this madman.
Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps.
No République française, just a flag.
Pour lui, la France n'existe plus.
Si nous ne nous imposons pas sur le terrain, il n'y aura pas de France.
L'armée secrète se met en place. Nous allons pouvoir commencer à frapper fort.
Je suis faible et je tiens tête.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, c'est le retour tant attendu depuis 5 ans. Et oui, elle n'avait pas remis les pieds au Camping Paradis. Et pour le retour d'Amandine, Géraldine Lapalu est avec nous pour en parler. Bonjour Géraldine.
Bonjour, bonjour à tous.
Et c'est le grand retour, effectivement, je crois qu'on peut dire, d'Amandine dans Camping Paradis pour au moins ce soir, déjà, pour 2 nouveaux épisodes. Et c'est peut-être le début d'un retour un peu plus long. On verra, en tout cas, c'est ce qu'on espère tous. Et en tout cas, je crois que tu as été très heureuse de retrouver toute l'équipe.
Absolument, c'était un vrai bonheur de retrouver toute l'équipe du tournage de Camping Paradis. Nous sommes tous très proches depuis tant d'années. On se voit toujours, même quand je n'étais plus dans la série, j'étais au théâtre. Mais pour le coup, les copains, en dehors du tournage, on se voyait parce que moi, j'habite dans le sud, à côté du Camping Paradis. Donc le grand retour d'Amandine, avec, vous allez voir ce soir, une intrigue très sympa qui mêlera Xavier dans cette histoire. Vous allez voir, je vais laisser découvrir ça. Donc un grand bonheur, en effet, d'être revenu auprès de l'équipe. Et puis peut-être que, enfin, on verra avec cet épisode-là, ces 2 épisodes, si Amandine me reviendra peut-être de temps en temps au camping ou pas. On ne sait pas, vous allez voir ça.
On ne sait pas ce qui va se tramer, en tout cas. On a l'impression qu'à chaque fois que Xavier revoit Amandine, ça a été le cas de ton retour il y a 5 ans, il ne l'a jamais oublié finalement. Et les téléspectateurs t'ont jamais oublié non plus, parce que le retour d'Amandine, c'est un peu l'événement des 20 ans de la série, là.
C'est ça, tout à fait. Oui, oui. Bah, écoutez, c'est vrai que les personnages du début, comme le personnage d'Amandine, une affection particulière dans le cœur des téléspectateurs. Et d'ailleurs, une petite anecdote, c'est que lorsque je suis en tournée ou sur d'autres tournages ou en tout cas en tournée de théâtre, tous les gens qui viennent me voir après, c'est toujours Amandine, Amandine, Amandine. Donc ce personnage est ancré dans le cœur des téléspectateurs de la série.
On t'explique ça.
Ben je pense que c'est un personnage auquel on a pu s'attacher. Et puis les débuts d'une série, alors je cite souvent ça, c'est comme ma grand-mère qui regarde Les Feux de l'amour depuis 50 ans. Les personnages principaux du début de cette série-là, on a besoin de les voir. Et après qu'il y ait des nouveaux personnages, c'est très intéressant. Mais les vieux dinosaures du début...
Ouais, les Victor Newman et Catherine Chancellor.
Amandine est un peu le vieux dinosaure du Camping Paradis. Et puis en plus, tout au long de ces années, il y a toujours eu un peu chien et chat entre Amandine et entre Xavier. Et je pense que du coup, les gens ont envie de les voir ensemble ou pas ensemble, mais en tout cas, de continuer un peu c'est ce genre d'intrigue-là. Et voilà. Donc... je suis très contente.
Si on fait un bond 20 ans en arrière et qu'on se retrouve en 2006, que ce pilote de Camping Paradis, suite à Mon Incroyable Fiancé, TF1 décide de faire entièrement confiance à Laurent Ournac et de se lancer effectivement dans ce défi d'avoir sa propre série qui devait être incarnée par la GAF, il faut le dire au début. 2006, 2026, 20 ans de Camping Paradis, c'est absolument incroyable. Est-ce que vous pouviez imaginer ça? Est-ce que quand on vous dit vous allez faire un pilote de série et puis on verra ce que ça va donner, déjà 3 ans plus tard on était rendu à 6 épisodes par an et là c'est juste colossal, le camping se délocalise, maintenant on vous fait partir à l'international, c'est dingue.
Ouais, non, c'est complètement dingue et en effet il y a 20 ans jamais je n'aurais pu m'imaginer que cet épisode là qui n'était pas un épisode, qui était un unitaire, c'était un film pour TF1 comme il y avait eu à l'époque d'ailleurs au cinéma Camping, et là c'était Camping voilà pour TF1 en téléfilm, et jamais on aurait pu imaginer ça, que ça perdure dans le temps, qu'il y ait autant d'affection des téléspectateurs pour cette série-là, qui amène du soleil, de la joie, et on n'aurait jamais pensé non plus qu'on soit tous aussi proches et encore liés 20 ans après. Vous imaginez 20 ans de vie, c'est-à-dire qu'on a partagé entre nous...
Une génération,
on a eu nos enfants, on s'est mariés, il y a eu des décès, il y a eu des choses tristes, des choses heureuses dans nos vies, comme dans la vie de tout le monde. Quand je me remets en arrière, en 2006, non, jamais on aurait pu penser ça, jamais. Mais quel bonheur, c'est vraiment, c'est dingue quoi. Et en plus, le hasard pour moi personnellement, c'est que la série a été délocalisée à La Couronne, entre Marseille et Martigues, et c'est là où je vis. Donc c'est une dinguerie quoi.
C'est complètement fou, ça c'est vrai. Et puis c'est vrai que Laurent qui se met aussi à la réalisation d'épisodes, pour le coup, toi t'as pu tourner sous sa direction ?
Alors je n'ai malheureusement pas tourné sous sa direction.
C'est vrai ?
J'aimerais beaucoup. Alors l'épisode que vous allez voir ce soir, c'est Philippe Proto qui l'a réalisé, qui est un des réalisateurs qui a fait le plus de Camping Paradis, qui est aussi devenu un ami puisqu'on est tous amis maintenant dans cette bande. Et quand je suis revenue, quand ils m'ont proposé de revenir sur cet épisode spécial avec mon personnage, où le film a été écrit autour de ce personnage avec une autre intrigue avec Marie Fugain que vous allez voir ce soir, je me suis dit, si je tournais avec Laurent, alors je vais le retrouver comme comédien, mais si je peux être dirigée par lui, parce que depuis qu'il est réalisateur, moi je ne suis plus dans la série, donc j'ai jamais été dirigée par lui, et donc j'avais vraiment le rêve d'être dirigée par lui, d'autant plus que tous mes camarades comédiens m'ont dit, mais il dirige parfaitement bien, il fait vraiment une très belle direction d'acteur, c'est super. Alors, il y a eu le choix...
Vous connaissez ses personnages par cœur, c'est ça qui est aussi quelque part génial.
On savait pas vraiment, il s'agissait de la fin d'écriture de cet épisode, et puis finalement c'est tombé sur le film de Philippe Proto que j'adore, donc j'ai profité de Laurent comme comédien, mais pas comme réal. Mais je ne désespère pas de revenir dans un prochain épisode dirigé par Laurent Ournac.
Les guests, Marie Fugain, tu disais ce soir?
Oui, Marie Fugain, elle est formidable. Elle était déjà venue dans Camping Paradis, sur un autre personnage. J'étais ravie de revenir et d'avoir cette comédienne que j'adore, qui est un talent fou et qui en plus est aussi devenue une très bonne copine, même une amie dans la vie. J'avais tourné avec elle il y a très 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 longtemps, dans Pas de secret entre nous, qui était une autre série. On s'était rencontrés comme ça, on s'était retrouvés sur Camping. Et là, elle revient pour un guest et je reviens en même temps. Donc c'était vraiment le bonheur de pouvoir tourner avec elle. Alors, pas avec elle parce qu'on n'a pas de scène ensemble, mais d'être en tout cas sur un plateau de tournage ensemble.
Les retrouvailles avec Patrick Guérineau. J'imagine c'est comme si vous vous étiez jamais quittés parce que vous êtes tellement associés l'un à l'autre tous les deux dans cette série. Vous devez avoir des souvenirs incroyables de tournage tous les deux.
On s'aime beaucoup, on a une amitié profonde. J'adore son travail d'acteur et c'était un bonheur de se retrouver. Alors que ce soit dans nos personnages Amandine et Xavier, très chouette de se retrouver tous les deux. Avec beaucoup de choses à jouer, vous allez voir ce soir et on en a vraiment beaucoup de scènes très sympas ensemble, très intenses, avec beaucoup d'émotions. Et puis après, humainement, voilà, de revoir Patrick, c'était absolument génial. On s'est retrouvés, on s'est tombés dans les bras. On a beaucoup ri aussi. Et alors je faisais des petites blagues parce que, petite anecdote, quand on était dans les loges costumes, chacun a un casier avec ses affaires perso. On se change nos affaires. Et Patrick, son petit casier. Et dans son dos, j'ai pris chez moi plein de photos de moi. Je les ai collés dans son casier. Et quand il est venu se changer, il a ouvert le casier avec Amandine. Mais partout, partout, partout dans son casier, j'ai dit, tu vois, tu pourras jamais m'oublier. Amandine, elle est là, elle restera dans ton cœur. Même si t'as une autre meuf dans la série, ça sera moi, Amandine. Et dans Harry, pour vous terminer sur cette petite anecdote-là, ils ont repris un autre épisode dans lequel je n'y suis pas. Il m'a envoyé une photo avec son placard, avec toutes mes photos. Il m'a dit, tu vois, t'es partie, Géraldine, Amandine, mais t'es toujours là, j'enlève pas les photos.
Excellent. Ça, c'est génial. Ça, franchement, c'est vraiment super. Mais c'est vrai que voilà, on sent vraiment une alchimie, en tout cas, entre vous tous. Et c'est ça qui est chouette, c'est que même s'il y a eu, voilà, d'autres comédiens, comme Candy, qui ont accroché les wagons, en cours de route, qui a une rythmique, en plus, assez drôle et qui vient de la scène aussi. Voilà, on peut penser, effectivement, à tous ceux qui sont passés pendant 20 ans, à Princesse Erika, évidemment, qui était une des premières du début, et plein d'autres. Et c'est vrai que voilà, c'est en tout cas un joli cadeau de devoir revenir.
Ah ben, je suis très contente. Je suis vraiment ravie d'être revenue. Je pense que l'épisode va vous surprendre et va être sympa. Je vous attends nombreux ce soir. Et puis, en espérant peut-être revenir dans d'autres intrigues, dans ce beau camping paradis qu'on aime tant.
Bon, et puis en tout cas, on te recevra très certainement bientôt, puisque je sais qu'il y a des projets théâtre aussi. Tu auras l'occasion de revenir nous en parler, bien évidemment, parce que ça aussi, c'est un de tes amours particuliers, la scène. Et nous, on a eu l'occasion de te voir sur scène, et c'est tellement drôle.
Ah oui, merci beaucoup. Même moi, j'ai découvert le théâtre, enfin, j'en ai fait avant, mais sur le tard en tant que professionnelle, avec des producteurs et avec une super troupe. La dernière, donc, Un Avenir à Dieu, avec Jérôme Anthony, Nicolas Vitiello notamment. Et donc, je suis piquée totalement par la scène. C'est pour ça que Camping m'avait manqué, mais pas tant que ça sur les dernières années qui ont été très intenses pour moi en tournée de théâtre. Et donc avec mes producteurs, sur cette dernière pièce en tout cas, avec les grands théâtres, on a un projet évidemment de pièces avec peut-être une surprise, vous verrez, au niveau du casting. Je peux pas en dire plus pour le moment, mais on en parlera ensemble évidemment. Et ça va pas tarder, on prépare tout ça tranquillement, on vous prépare quelque chose de très sympa et de très drôle.
Bah, reviens quand tu veux en tout cas, et puis si ça passe pas loin de chez nous, on sera là évidemment pour te soutenir. Ou te faire rire du coin de l'œil. C'est arrivé ça. Merci en tout cas Géraldine d'avoir été avec nous. Et puis Camping Paradis, ce soir c'est le grand retour. Amandine is back, on ne le rate pas.
Ah oui, on vous attend nombreux devant vos écrans. Et merci de m'avoir reçu, encore une fois. C'est toujours un bonheur de discuter avec vous.
À très vite.
À très vite. Bonjour les copains.
Amandine,
ah. Ça y est là, il va s'effondrer dès qu'il verra Amandine.
C'est vrai que la dernière fois qu'Amandine est venue, ça l'a quand même pas mal chamboulé.
C'est pour ça que je suis revenue, pour toi.
Vous aviez quoi dans la réserve?
Vous êtes remis avec elle?
Non, pas du tout.
Tous les deux, vous arrivez exactement au même moment, c'est fou.
Ah ouais?
Si vous voulez échapper aux autres guignols, je peux vous aider, mais c'est pas gratuit.
Vous voulez nous faire chanter?
L'équipe du Camping Paradis est de retour pour une soirée inédite, lundi à 21h10 sur TF1 et TF1+.
Et oui, c'est les 20 ans de Camping Paradis et on est heureux cette année en tout cas d'avoir les comédiens qui se succèdent dans l'émission. C'est Patrick Guérino qui vient nous rejoindre. Bonjour Patrick.
Bonjour, comment tu vas? 20 ans déjà, tu te rends compte?
Tu te rends compte, franchement ça nous rajeunit pas tout ça, mais quel bonheur vous nous apportez depuis 20 ans avec cette série qui n'en finit pas de cartonner et qui amène du bonheur aux gens tout simplement. Quelle plus belle satisfaction!
Ah bah c'est un bonheur absolu. Je te cache pas que 20 ans, il y a 20 ans, quand on nous a proposé ce film, à aucun moment, on imaginait être encore en place 20 ans après. Et évidemment, c'est que du plaisir. Moi, on rencontre des gens, on rencontre le public qui est ravi de voir tous ces films qu'on tourne. Nous, on prend énormément de plaisir à les tourner. 20 ans que ça dure. Et souvent, la question qu'on me pose, c'est, mais est-ce qu'au bout de 20 ans, vous prenez toujours autant de plaisir à tourner les films? La réponse est oui. Et elle est sincèrement oui. Parce que nous sommes une famille, nous sommes des amis, nous tournons ensemble depuis 20 ans. Et voilà, on a tout vécu ensemble. On a vécu la vie, dans son intégralité. Enfin, c'est une vraie famille et je pense que ce qu'on vit, nous, à l'intérieur de ces tournages, se ressent probablement à l'image et c'est probablement aussi pour ça que je pense qu'il y a un vrai succès de la série.
Vous vous connaissez par cœur maintenant ?
Oui.
C'est oui. Ça qui est génial. Ça donne des... Alors, c'est un avantage ou un inconvénient ?
Non, non, c'est un avantage, c'est génial. Parce que du coup, on n'est que dans le plaisir, on se connaît par cœur, on sait quand on fait des blagues, on sait quand on fait pas des blagues, on sait quand il y en a un qui se trompe, et ben, on se rattrape ensemble. Non, non, c'est extrêmement confortable. En plus, maintenant, depuis quelques années, Laurent Ournac réalise certains épisodes. Alors là, autant te dire qu'on est en famille, en ultra famille. C'est le repas de Noël.
Et puis c'est vrai que les, Camping Paradis aussi s'exporte, s'en va tourner un peu sous les tropiques. Cette année, pour les 20 20 ans, c'est en Martinique qu'on vous a emmené. Donc ça, c'est vraiment chouette, quoi.
Oui, oui, c'est génial. C'est vrai que ça, on a, donc cette année, on était en Martinique, on a été au Maroc, on a été à la Réunion.
Voyager, tout ça.
Oui, ça fait voyager. On a été au ski.
En Corse.
Donc on a été en Corse, on a été au ski. Non, c'est super. C'est un plaisir fou. C'est des épisodes un peu inédits, un peu exceptionnels. Et on part tous ensemble. C'est la colonie de vacances.
C'est ça aussi qui amène un peu de vous sortir du camping. Permet-vous de vous aérer, parce que ça tourne quand même en décor. Il faut spécifier Camping Paradis, on va dire dans un endroit d'un camping à Martigues, qui est réservé vraiment au tournage, mais du coup vous tournez beaucoup sur ces décors là. Là ça permet vraiment d'en sortir.
Oui, on en sort vraiment. Là, on, comme tu dis, on a des éléments de décor qui jouxent un camping qui existe vraiment, qui se trouve à la Couronne sur la Côte Bleue, sur la commune de Martigues. Au tout début de la série, on tournait à l'intérieur même du camping. On utilisait les infrastructures du camping, et puis la série prenant de l'ampleur, le public étant présent, on a imaginé des décors, ceux que vous connaissez aujourd'hui, le bar, l'accueil, qui sont des décors de cinéma, mais qui jouxtent un vrai camping. C'est-à-dire que les mobilhomes qu'on voit à l'image sont les mobilhomes du camping. Donc tout ça se mélange très très bien. Et effectivement, quand du coup on se retrouve à aller tourner en Martinique, à La Réunion ou ailleurs, c'est effectivement une grande respiration. On doit retrouver des codes, retrouver des marques. Et en même temps, comme on est tous ensemble, on trouve nos marques très vite.
Et le cadeau des 20 ans, eh bien, c'est un retour inattendu, un retour de flamme. Et je crois que pour Xavier, c'est le plus beau jour de sa vie. Il voit revenir Amandine au camping. Et ça, ce retour de flamme ne va pas le laisser indifférent.
Non, absolument. Xavier est très touché par le retour d'Amandine au camping, et je ne dévoilerai pas ce qui s'y raconte et ce qu'il joue, mais ouais, ça a été un tournage exceptionnel. On a adoré tourner ensemble. Les inévitables histoires d'amour entre Xavier et Amandine, et on espère tous que ça débouchera sur quelque chose de peut-être plus pérenne. Ça a été un grand bonheur de tourner avec Géraldine, et cet épisode-là, je le conseille à tous, parce qu'on s'est beaucoup amusé à le tourner. On a pris beaucoup de plaisir. Il y a à la fois de l'humour, de l'émotion. Il y a tout ce qui fait un bon camping, en fait.
C'est vrai que c'est des retrouvailles qui, pour les téléspectateurs, va être empreintes d'émotion, parce que vous étiez tous les deux aussi à la base avec Princesse Erika, avec Laurent. C'est vrai que c'est des retrouvailles plein d'émotions.
Oui, c'est les acteurs Canal Historique. C'est Géraldine, Laurent, moi, Thierry, on est là depuis le début. Donc c'est évidemment, se retrouver là 20 ans après, c'est exceptionnel. Je pense qu'on n'a jamais imaginé se dire, tiens les gars, dans 20 ans on est là, on se retrouve tous ensemble et on fait un film. On le fait, et on le fait avec autant de plaisir et d'envie qu'il y a 20 ans.
Vous êtes rendu maintenant à je ne sais combien d'épisodes, c'est absolument fou. Le succès ne se démente pas, il y a même une franchise maintenant, Camping Paradis, avec des Camping Paradis, près d'une centaine partout en France, dans laquelle tu as été d'ailleurs l'été dernier faire quelques petits services surprises, qui n'a pas été sans émotion pour les campeurs qui ont pu te découvrir derrière le bar. C'est vrai que là, on est complètement dans la série. Et c'est vrai que moi qui te connais un peu maintenant, j'imagine que pour toi, le bonheur que ça a été de leur rendre un peu tout cet amour qu'ils vous donnent en vous regardant, en vous suivant.
Oui, c'est assez marrant, parce que c'est très touchant, parce que quand effectivement j'ai fait ces interventions-là, moi je suis en vacances dans la région, ça m'a permis de pouvoir effectivement rencontrer le public en immersion dans les Camping Paradis. Donc c'est assez drôle, parce qu'ils me retrouvent, moi, Patrick Guérino, mais leur personnage de Xavier, ceux qui suivent depuis une vingtaine d'années, et je retrouve ces gens qui me disent « Ah, mais j'ai l'impression de vous connaître, mais moi aussi j'ai l'impression de vous connaître, en fait. Je suis dans votre salon tous les lundis, on est ensemble, on dîne ensemble, on fait la fête ensemble depuis 20 ans. » Et c'est drôle, parce que ces gens-là sont pleins d'amour, de reconnaissance, et j'ai la même chose à leur offrir. Donc c'est des moments de partage que je trouve exceptionnels, et j'espère se reproduiront, parce que c'est une expérience géniale, et pour moi et pour eux.
Alors, une autre expérience aussi qui t'a permis un peu de sortir aussi du rôle de Xavier, c'est celui d'Étienne dans Demain nous appartient, où tu as passé 2 ans dans la peau d'Étienne à alterner les deux plateaux. Ça n'a pas dû être chose simple. Je me rappelle qu'on s'était vu et tu m'avais confié ne pas dormir beaucoup à cette époque-là. Est-ce que Étienne pourrait revenir peut-être de son bateau? Qu'est-ce qui se passe pour Dorian, Étienne et pour la famille Curtis, qu'on aimerait peut-être revoir pour une intrigue événement? Est-ce que toi, en tout cas, tu serais partant?
Oui, moi, je serais partant, évidemment. Maintenant, je sais pas moi qui décide de ça. Notre famille, moi, mon personnage à l'heure actuelle est en prison. Il a été emprisonné puisqu'il a commis des méfaits pour sauver sa femme et son fils.
Il faudra bien qu'il en sorte.
Il faudra bien qu'un jour il en sorte. Et si jamais un jour Étienne Curtis sort, bien moi, Patrick Guérino, je serais ravi d'en être.
C'est vrai que Dorian a fait un retour très remarqué l'année dernière, d'ailleurs aussi, qui a été empreint d'émotion, là, je crois aussi. Des projets? Est-ce qu'il y a des choses en 2026 qui t'attendent, dans lesquelles on va te voir aussi?
Eh bien, j'espère, oui. J'ai des projets de théâtre qui, j'espère, vont se concrétiser. Donc, je vous parlerai au moment où ce sera concret. Des projets d'autres téléfilms aussi qui devraient se mettre en place, que j'espère pouvoir concrétiser rapidement. Donc oui, en dehors de camping, j'ai des choses à venir et j'ai hâte de pouvoir alterner et des téléfilms et du théâtre. C'est un vrai plaisir, c'est mon plaisir d'acteur. Métier que je pratique depuis 30 ans maintenant.
Mais écoute, tu reviens quand tu veux, tu le sais, chez nous, t'es chez toi.
Eh bien c'est super, merci à toi.
À très vite.
À très très vite.
Et Camping Paradis revient pour un nouvel épisode inédit. Ce retour de flamme tant attendu vous attend sur TF1, évidemment, à 21h10 avec Patrick Guérino, Géraldine Napalu, Laurent Ona, Candy et toute l'équipe et Patrick Parou, bien sûr, qu'on adore tant. C'est évidemment les 20 ans de Camping Paradis cette année. Allez, ne bougez pas, Lucie Carrasco, Aïssa Maïga, mais également Ambroise Michel et l'équipe de Permis de Détruire débarquent dans Chute, on écoute la télé, à tout de suite.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chute, on écoute la télé. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé est consacré au nouvel opus des aventures de Lucie sur France 5, mercredi soir. Lucie en Thaïlande avec Lucie Carrasco, avec Jérémy Michalak qui nous emmène évidemment régulièrement en voyage. Lucie est avec nous pour la première fois dans Chute, on écoute la télé. Bonjour Lucie.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh ben, merci à toi d'être avec nous aussi. Et ce coup-ci, c'est au pays de l'éléphant qu'on va te retrouver. Et toujours flanqué de ton fauteuil roulant, évidemment. Et Jérémy Michalak, t'as concocté un programme entre Bangkok, les plages de Phuket et surtout la découverte de l'île mythique de Koh Lanta. On va en avoir pour notre argent et plein les yeux. Et je crois que toi aussi, c'était une super aventure, hein, il me semble.
Ah oui, moi, je pourrais pas dire le contraire, c'est impossible. C'est un très très beau pays. Les gens, on appelle le pays du sourire et c'est pas pour rien. Et c'était un véritable plaisir de tourner ces épisodes.
Moi, je trouve absolument génial dans tes voyages, Lucie, et c'est pas le premier, hein, parce que combien tu en as fait là pour l'instant d'émissions déjà? C'est pas la cinquième ou sixième?
Alors, on est sur même le numéro 9, je dirais, parce qu'on a fait les États-Unis, le Japon, le Brésil, le Canada, l'Australie. Alors, on a également fait un tour de France et là, je vous parle depuis le camping-car en plein tournage du deuxième Tour de France. Donc, on est dans la vague de chaleur exactement comme vous. Je suis dans la Narbonne ce soir, donc littéralement chez vous. Et on va être au 9e avec le tournage qu'on est en train de faire maintenant. Donc, on a parcouru le monde et on parcourt désormais la France. Mais il n'est pas impossible qu'on reprenne l'avion pour votre été prochain et
pour de nouvelles aventures.
Exactement, parce que Jérémy, ce n'est pas un aventurier au départ. Je pense que j'ai un peu converti, quoi. Donc, on ne s'arrête pas.
C'est toi qui l'as décidé ou c'est lui qui a essayé de te convaincre aussi de l'emmener avec lui? Ou c'est toi qui avais vraiment cette soif de découverte et de faire complètement abstraction? Parce que j'avoue qu'en te regardant et dans tes aventures, ce qui me frappe, Lucie, avant tout, c'est qu'on oublie très vite ton handicap et qu'on a l'impression avec toi, c'est une belle leçon de vie, c'est qu'on peut tout faire malgré tout.
Bah, c'est très gentil, c'est exactement que je pense, mais avec des difficultés, avec des embûches, oui, je ne me cacherai pas, mais ça n'empêche pas de faire ce qu'on veut. Et ça demande juste un peu beaucoup plus d'organisation, on va dire, et s'adapter. Mais en tout cas, c'est moi qui ai évolué, c'est moi qui ai contacté Jérémy, lui que j'ai harcelé il y a 14 ans. Alors, il dit que j'ai envoyé 20 mails, la réalité c'est que j'en ai envoyé peut-être 3 ou 4. Mais un petit côté marseillais, j'avais envie d'abord de traverser les États-Unis d'est en ouest. Il a mis longtemps à vendre ce projet, alors que le projet a déjà beaucoup d'éditions très regardées. Et ça a été compliqué parce qu'on lui disait le handicap, on ne sait pas vendre. Et il essayait d'expliquer qu'en fait, je ne suis, Lucie n'est pas le handicap, quoi. Je ne suis pas le handicap, je suis une femme avant tout et avec plein de choses à partager et pas uniquement le sujet du handicap à traiter, mais, d'une autre manière que, à l'époque, maintenant, il y a une dizaine d'années, on ne voyait que le téléphone, aussi, j'ai du handicap et rien d'autre. Donc voilà, ça a séduit et, on pensait, à peine en faire un, puisqu'on n'arrivait pas vraiment à le vendre aux chaînes. Et, là, j'en ai un 9e, finalement, ça a plu et, on en est au 9e. Donc, je pense que finalement, ça a mis le temps, mais ça a plu.
Alors moi, ce que j'aime, c'est vrai que t'as toujours une bonne humeur et un sourire communicatif. Et c'est vrai que c'est très agréable de regarder effectivement tes voyages. Alors au-delà, évidemment, des paysages absolument magnifiques qu'on nous propose. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, l'Asie du Sud-Est a rempli toutes tes envies? Est-ce que t'as pu faire tout ce que tu voulais?
Alors déjà, merci. Ça m'arrive d'être conchon et de mauvaise humeur, mais c'est très rare parce que c'est pas dans la nature. Sincèrement, la chose qui manque, parce que c'est du travail, en fait, un tournage, c'est du boulot, même si c'est extrêmement agréable. La chose qui manque, c'est du temps et l'envie de passer du temps dans certains très beaux endroits et surtout avec les personnes qu'on rencontre. Là, on a plusieurs rencontres assez fortes, notamment avec Paul Barton, dans un sanctuaire pour éléphants ou avec Elisabeth Zana qui a créé une école, qui a retapé et fait revivre une école après le tsunami. Et là, on a envie, moi, j'aimerais rester avec les enfants, j'avais envie de passer plus de temps, mais on n'est pas en vacances, on est là pour travailler et faire la meilleure émission possible et faire les gens avec nous.
Tu as fait quelques rencontres quand même un peu, on va dire, insolites, entre les singes farceurs, des scorpions, des licornes, presque.
Les licornes, oui, les licornes, ça c'était sur ma to-do list, je dis à Jérémy, ok, on part en Thaïlande, mais moi je vais aller au bar des licornes, parce que quand on est un petit peu intéressé au monde des licornes, et des femmes de 45 ans qui se prennent pour une fille de 80 ans, qui ont toujours 80 ans en fait, il y a un bar licorne avec des boissons arc-en-ciel, même des nuggets avec une sauce arc-en-ciel dessus, donc voilà, tout ça n'est bien sûr pas de colorant, c'est très bon pour la santé, mais bon, une fois de temps en temps, on peut se faire plaisir.
Exactement. Tu as vu un soigneur de chiens. Il a un don incroyable et c'est vraiment beau à voir, en tout cas, ça aussi.
Oui, Michael a un refuge. Donc, c'est des chiens en fait, des rues. Hein. Il y a beaucoup de chiens errants dans les rues en Thaïlande. Et dans ces animaux blessés, il y a des, il y en a qui ont une rupture de la moelle épinière, donc ils ont, qui ne sont plus leurs pattes arrière et à qui a fait des petits fauteuils roulants au niveau des pattes arrière et qui se mettent à courir avec leurs pattes avant comme des dingos. Mais en fait, le chien n'a pas conscience qu'il est handicapé, en fait. C'est un peu comme moi, on ne m'a pas dit, donc du coup, j'ai avancé, quoi. On n'a pas dit que je ne pourrais pas faire des trucs. Enfin, les chiens, c'est pareil, ils disent, allez, on y va, et toi, tu peux avancer, il court et il est heureux, quoi. Donc c'était assez drôle, assez touchant, bien sûr, mais assez drôle de courir et de rouler au milieu de, en pleine sortie de ces chiens en gang de fauteuils roulants à Payama. Et c'est vraiment drôle. Je pense que vous avez adoré ce moment.
Alors Lucie, évidemment, moi j'aimerais, si la production nous entend, si Jérémy Michalak nous entend par exemple, quel est le prochain pays que t'aimerais visiter? Allez, maintenant.
Moi, mon plus grand rêve, moi, c'est d'aller en Colombie. Parce
ah oui.
Que je trouve ce pays magnifique. Je trouve ce pays, que ce pays souffre de clichés, comme Escobar et compagnie, alors que c'était la Colombie des années 80 et qu'aujourd'hui c'est un pays qui a vraiment énormément à faire. Je ne suis jamais allée. Mais mon meilleur ami est colombien. J'ai toujours été très liée avec la communauté colombienne où j'habite. Et il y a des valeurs que j'aime beaucoup. C'est un pays très contrasté. Il y a la mer, les Caraïbes, la montagne, l'océan. Enfin, voilà. Et c'est des gens qui ont un cœur gigantesque, qui adorent danser, qui adorent la salsa. Et moi, la salsa, c'est un peu ma vie. Et en plus, c'est le pays de Shakira. Donc, vraiment.
C'est génial. Bah, écoute, j'espère te retrouver pour un prochain voyage en Colombie. Hein. Je manquerai pas de t'appeler le jour où je verrai Lucie en Colombie. Je saurai, en tout cas, que c'est peut-être parti de là.
Tu saurais que Lucie est une femme heureuse. Je parle de moi, la troisième personne qui a fait. Mais tu saurais que, voilà, que je suis une femme encore plus fondée que je le suis aujourd'hui parce que j'aurais réalisé un très grand rêve.
Merci beaucoup, Lucie, en Thaïlande. C'est mercredi, c'est à 21h sur France 5. On ne le rate pas, un documentaire qui va vous donner la patate, le sourire, une belle leçon de vie encore une fois. Et comme quoi, effectivement, eh bien, on peut encore une fois se régaler avec ce reportage. Et malgré, effectivement, le handicap, eh bien, t'apportes toujours ton optimisme, ton humour et puis ta générosité dans cette émission. Et c'est toujours un plaisir à l'approche de l'été de la retrouver. Merci beaucoup, Lucie.
Oh, merci beaucoup. Merci à vous d'en avoir parlé et vous m'enverrez et tu m'enverras un petit message si,
pas de
si tu as aimé, si les auditeurs ont aimé.
Exactement. Eh bien, écoute, si on reçoit des messages, on te les fera suivre sans aucun problème et t'embrasse Jérémy de notre part. Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Au revoir.
Inédit sur France Télévisions.
Lucie.
Jo.
Pour Lucie, voyager en Thaïlande est un défi.
Ça se chipait un peu.
Ok, on a pris la tête de la course.
Attends, je jette des bananes à l'arrière.
Et repousser les limites est son combat.
Quand je pète,
c'est vraiment une danseuse. Hein.
Je crois que tu vas être la première handicapée à faire Koh-Lanta.
Il y a des pattes comme ça et tout, on dirait les bras de Lucie.
Mais à la fin, c'est toujours la tendresse qui gagne.
Viens, ma chérie. Oui, tu peux manger une handicapée si tu veux.
Lucie en Thaïlande.
Tu mesures quand même la chance qu'on a d'être là.
Déjà disponible sur France.tv et mercredi soir à 21h05 sur France 5.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à un château en Espagne, le film de Corinne Maziro avec Aïssa Maïga que nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir. Bonjour Aïssa.
Bonjour, avec Aïssa Maïga et Romane Bourringer et bien d'autres acteurs et actrices.
Ouais, mais nous on a que la meilleure aujourd'hui, Aïssa Maïga. Elle est avec nous et on est très heureux de t'avoir avec nous, Aïssa, pour un château en Espagne. Alors on va revenir sur plein de choses, hein, justement sur ta carrière et puis aussi sur tes rôles de jury parce que t'as été jury au Festival Créativité à 7. T'as fait celui de La Rochelle, il me semble, hein, de la fiction aussi. Est-ce que t'aimes particulièrement justement découvrir, est-ce que tu es curieuse justement de toutes ces aventures télévisuelles et de voir le travail un peu des autres?
Mais les festivals, c'est vraiment un moment où on est très gâté parce qu'on voit, bah, comme vous le disiez, le travail des autres réalisateurs, réalisatrices, des autres acteurs, actrices, parce qu'on peut pas tout voir. Et d'un seul coup, quand on est dans un festival, c'est un concentré de tout ce qui se fait et souvent de tout ce qui se fait de meilleur.
Il y a quelque chose dans la créativité, justement, qui est vraiment une émulsion en ce moment. Alors, tu en as fait partie, par exemple, avec des films comme Il a déjà tes yeux, qui sont devenus une série aussi derrière. La télé n'est plus le parent pauvre du cinéma comme c'était un peu le cas il y a 20 ans. Et aujourd'hui, devient même peut-être encore plus créative que le cinéma.
Oui, quand j'ai commencé à faire de la télé, c'était considéré comme vraiment... Enfin, on était des sous-acteurs quand on acceptait de faire un téléfilm. C'était, j'ai toujours trouvé ça absurde, mais c'était comme ça. Et puis, c'est vrai que les séries ont pris une place tellement importante. Il y a eu vraiment des chefs-d'œuvre qui ont été faits, que c'est devenu un endroit d'hyper-créativité. Et maintenant, en France, je trouve qu'on fait des choses qui sont vraiment de niveau international, qui donne envie de les regarder en tant que spectateur, spectatrice, mais qui donne aussi envie de jouer dedans. Vraiment, c'est très inspirant.
Alors là, on a affaire à des femmes militantes dans ce film Un château en Espagne, puisqu'on connaît aujourd'hui le militantisme de Corinne Maziru. On connaît aussi le tien, justement, pour la place des femmes, notamment dans le cinéma, dans la télévision aussi. Et aujourd'hui, c'est un film dirigé par Corinne Maziru. Alors, elle est comment ? En tant que réalisatrice, parce qu'on la connaît en tant que comédienne, mais un peu moins de l'autre côté quand même du miroir.
Bon alors attention, moi je suis tombée amoureuse de Corinne Maziru. On se connaissait pas, moi je connaissais évidemment son travail en tant qu'actrice. Voilà, c'était un personnage, on va dire, qui me plaisait beaucoup. Et puis quand on s'est rencontrés, qu'elle m'a proposé le rôle, alors sur le coup je lui ai pas dit, mais j'ai eu un coup de cœur, je l'ai trouvée. Elle a un côté très cash et on voit immédiatement qu'elle a un énorme cœur. C'est vraiment une femme de cœur, c'est une femme qui aime les autres, c'est une femme qui pense aux autres. Et sur le plateau, elle était comme ça, elle était attentive à tout, elle voyait tout, aussi bien pour le figurant qui était là que quelques heures sur toute la durée du tournage, ou évidemment les gens qui avaient des rôles plus importants, les techniciens, les techniciennes, elles faisaient attention à la fatigue des gens, elles voulaient évidemment que tout le monde soit hyper respecté. Elle a, en fait, c'est quelqu'un qui essaye d'être vraiment aligné avec ses valeurs. Et ça, c'est très beau à voir. Parce qu'on a tous des idéaux. Et puis, parfois, bah, c'est difficile de les incarner complètement. On fait tous, voilà, des concessions, des efforts, etc. Et elle essaye vraiment, d'être alignée, quoi, avec ses principes. Et c'était une colonie de vacances, ce tournage. Honnêtement, moi, j'avais plus du tout l'impression de travailler. C'était tellement joyeux, c'était gai, c'était...
Et... Ça passe vite, un tournage télé, c'est 20 jours, quoi.
Oui, c'est 20 jours. Après, c'est intense. Les personnages étaient très bien écrits. C'est vraiment deux personnages de femmes qui étaient passionnants à jouer. Jouer avec Romane Bohringer, mais c'est un privilège énorme. Elle est incroyable. Et puis, il y a tous ces acteurs, toutes ces actrices que pour la plupart, je ne connaissais pas, dont j'ai découvert le travail. Certains venaient du théâtre de rue, d'autres venaient du cinéma, d'autres... Enfin, il y avait plein d'univers comme ça. Et c'est un film que j'ai hâte de voir. Moi, je l'ai pas encore vu. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je pense qu'il va être plein d'humanité. Ça parle du mal logement. Et ça l'aborde avec oui, voilà, beaucoup d'humanité. Il y a des moments d'humour aussi. Enfin, c'est vraiment... Moi, j'ai adoré interpréter le personnage d'Audrey.
Alors justement, ce personnage d'Audrey, dis-nous en plus sur elle.
Alors Audrey, elle fait ce qu'elle peut. Elle est mariée à un homme depuis longtemps qui est joué par Océan. Bon, c'est une femme qui est visiblement pas très heureuse dans son mariage. Son mari fait des coups immobiliers. Et là, il est sur un gros coup. Une sorte de bâtiment vide qu'il va pouvoir avoir à un tarif inégalé. Et en même temps que son mari est en train de faire ce coup, Audrey va s'apercevoir que une femme qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qui est la femme d'un entrepreneur qui a travaillé pour mon mari, Audrey va se rendre compte que cette femme est à la rue et elle va se sentir responsable pour des motifs que je vais pas dévoiler
pour pas tout déflorer.
Mais elle va décider de l'aider avec beaucoup de maladresse parce qu'Audrey est plutôt, voilà, elle est privilégiée, c'est pas une grande bourgeoise, mais elle jouit quand même de certains privilèges. Et quand on veut aider les autres, il faut, comment dire, il faut pas que la main qu'on tend soit plus haut que celle qui reçoit. Il faut vraiment qu'il y ait une forme d'égalité qui soit maintenue, d'équité. Et elle va se retrouver aussi face à ses limites, Audrey. Et c'est vraiment, voilà, le personnage qui veut bien faire et qui souvent fait mal, mais qui est tellement sincère que, enfin, elle est hyper attachante. Moi, j'ai adoré jouer ce personnage. Et Romane, elle joue le rôle d'une femme qui doit s'en sortir avec ses gamins et qui a sa fierté. C'est très beau leur rencontre.
Toi qui as milité des années durant justement pour la place des femmes noires dans le cinéma et la télévision, pour sortir un peu de ces clichés, des rôles qu'on vous proposait, toi, est-ce que tu as l'impression que ça, justement, ça a évolué dans le bon sens ? Ou est-ce que c'est encore trop lent ?
oui, c'est trop lent et ça évolue. Ça évolue, mais c'est trop lent. Parfois, je regarde le verre à moitié vide et puis des fois, je le regarde à moitié plein. Il y a beaucoup de choses qui avancent sur la question des femmes en général et c'est très douloureux. C'est douloureux parce que d'abord, les femmes qui ont été victimes ou qui sont victimes, que ce soit des violences sexuelles ou sexistes, de viols, etc., doivent trouver un courage extraordinaire pour parler de ces douleurs-là. La place des femmes, elle concerne aussi la représentation, notamment la représentation des femmes de plus de 50 ans. Dans les films, dans les séries, dans les téléfilms, il y a ce qu'on appelle le tunnel des 50 à 50 ans.
Le trou d'air évoqué souvent par Véronique Jeunesse et Corinne Touzé, par exemple.
Voilà, à 50 ans, une femme est effacée de l'écran. On ne la voit plus et elle réapparaît. Quand elle réapparaît, quand elle est très âgée pour jouer les grands-mères et souvent dans des rôles de faire-valoir. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui est très important. Et quand vous disiez que je militais pour la représentation des femmes noires, c'est vrai. Mais ce qui sous-tend mon action, c'est vraiment la représentation d'une société telle qu'elle est, avec toutes ses composantes. Évidemment, je parle en tant que femme noire, je suis une femme noire. Donc c'est une expérience spécifique qui me permet de parler de là où je suis, de là d'où je parle, avec toute la légitimité.
Et de ton expérience.
Voilà, avec mon expérience concrète. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de prêcher pour ma simple paroisse, c'est vraiment de combattre des inégalités pour que tout le monde, quelle que soit notre couleur de peau, notre handicap, notre orientation sexuelle, notre genre, notre âge, c'est ça mon idéal. Et en ce sens-là, oui, ça avance, mais il y a des sujets qui restent un peu tabous encore, je trouve, et je pense qu'il faut dépasser le stade des tabous, se dire les choses, et puis aller de l'avant, construire, trouver des solutions, ouvrir les portes, être inclusif. La France, c'est un carrefour. Depuis très longtemps, pas uniquement depuis les années 60, hein, depuis très longtemps, la France, c'est un carrefour. Et ce carrefour, bah, c'est un melting pot. Et il faut que ce brassage se voit dans notre création, dans notre créativité. Et en plus, les programmes, lorsqu'ils sont divers en termes de représentation, se vendent beaucoup mieux à l'étranger. Donc c'est même d'un point de vue purement business, je dirais, c'est important de le faire.
Oui, tout le monde est gagnant dans cette histoire. J'ai l'impression que les séries quotidiennes ont peut-être amené plus de représentations justement diversifiées, que ça soit des femmes, des hommes, de tout milieu, de toute orientation sexuelle. Mais j'ai l'impression, en tout cas, que les quotidiennes ont mis vraiment une pierre à l'édifice depuis les faits plus belles la vie, évidemment, mais toutes les séries quotidiennes qu'il y a aujourd'hui, il y a une plus grande représentation, je trouve, au niveau des âges et tout.
Ouais, il y a une plus grande représentation et un des défis, c'est aussi de représenter des classes populaires. Parce que pendant longtemps, ce qu'on pouvait reprocher au cinéma ou à la télévision, c'était qu'il y avait une surreprésentation de la bourgeoisie et une sous-représentation des classes populaires, tout simplement, et notamment des classes les plus défavorisées. Et c'est vrai que quand on arrive d'un milieu très défavorisé, quelle que soit notre origine par ailleurs, on n'est pas forcément autour de la table des négociations, autour de la table des décisions. Et c'est aussi ce qui fait qu'il y a un manque de représentation. C'est parce qu'il faut que même derrière, dans les instances où les choses se décident, d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue tout simplement créatif, il faut que même dans ces endroits-là, ce soit diversifié et que toutes les voix puissent être entendues.
Il y aurait plus de discours comme ça, le monde irait mieux. Ça, c'est une certitude, ma chère Aïssa, en tout cas. Château d'Espagne, ça on va le découvrir dès maintenant sur France 2, le premier film en réalisation de Corinne Maziero aux côtés de Romane Boringer. Aïssa, merci infiniment d'être passée nous voir. On te dit à bientôt.
À très bientôt, à tout de suite.
Ah oui. Hey, j'ai quand même le droit de voir mes gosses. C'est pas encore les vôtres, hein.
Chérie, tu vas retourner avec mes pères et mes mères, d'accord? Hein, nous, Audrey et moi, on va gagner le procès. Et ce soir, je viens vous chercher et on va au resto pour fêter ça.
Oui, excusez-moi, on va être en
retard.
Oui, on va être en retard, oui.
Vous pouvez vous asseoir, moi c'est déjà fait depuis longtemps. Et madame Audrey Moinard, sans emploi.
Madame Audrey Barbier est architecte d'intérieur, c'est pour être précis.
50 prisons et 150 000 euros d'amende, non. C'est assez précis pour vous? C'est ce que vous encourez toutes les deux.
Notre coup de cœur télé est consacré à Demain nous appartient. Arthur vous a certainement fait flipper, mais vous l'avez adoré, je le sais, dans ce rôle. Ambroise Michel est notre invité pour revenir sur cette intrigue qui nous a tenu en haleine pendant un an, qui était un peu en plusieurs actes. Merci Ambroise d'être là.
Avec grand plaisir.
Je sais que tu as eu plein de demandes d'interview, tu en as accepté très peu dans la nôtre, alors merci infiniment. C'est vrai qu'Arthur nous a beaucoup marqué pendant cette année. Il est arrivé dans des conditions un peu compliquées. Il a d'abord déjà sauvé la vie de Roxane dans la série. On s'est dit, c'est un mec bien. Finalement, on s'est dit qu'avec cette histoire de cousine, il est peut-être pas si bien que ça. Et on s'est aperçu au dernier moment quand même qu'il était quand même hyper flippant, ce gars. C'est génial à jouer un personnage aussi ambigu.
Bah, c'est génial et en plus, c'était bien parce que dès le début avec les auteurs, on a pris le parti de mettre les spectateurs en complicité de ce personnage-là. C'est-à-dire que ce qui était un peu original, c'est que d'habitude, on découvre au fur et à mesure en fait que...
La facette du personnage.
Exactement. Là, ce qui était intéressant, c'était de pouvoir le présenter dès le début. Je crois que c'est dès la deuxième séquence de ce personnage-là. On sait de quel bord il est et que en fait, on met le spectateur en complicité avec, en gros, avec ce personnage-là, et en fait, on se demande à quel moment, en fait, tous les autres personnages, tous les récurrents, en tout cas, vont découvrir la vraie facette de ce personnage. Donc, c'est là où c'était encore plus intéressant, parce que moi, j'ai pu plus m'amuser sur l'ambiguïté à des moments où même finalement ça devait être des scènes de quotidienneté, moi y mettre une certaine ambiguïté pour qu'on se dise, à tout moment, ça peut éclater, quoi.
Alors, c'est la troisième quotidienne, si je me trompe pas, que tu fais après Plus belle la vie et Cut. Pour le coup, est-ce qu'il y a une différence réelle, peut-être de tournage, de rythme? Est-ce qu'on se fait assez facilement? Est-ce que c'est peut-être un petit peu plus confort, Demain nous appartient, par rapport au nombre d'équipes, par exemple, qui tournent, ou c'est vraiment toujours aussi rapide?
Alors, c'est rapide, hein, mais c'est vrai que non, c'est la différence, c'est que Plus belle, moi, je faisais partie vraiment des débuts, donc on a un peu essuyé les plâtres et on a installé un rythme, on a fait partie des boulons, comme je dis tout le temps, de ce système-là, donc
non. Jamais les premiers.
Voilà, exactement.
Ah oui, t'as fait partie d'à jamais les premiers.
Ah, ça, c'est sûr que oui. Donc, c'est vrai que, non, pour le coup, les débuts de Plus belle, c'était vraiment autre chose. Même les débuts de Cut, puisque c'était pareil. Il a fallu mettre en place tout un système qui était pas courant, en tout cas, à La Réunion et même pour cette production-là. Donc, il y a eu des choses qui se sont mises en place. Alors que, une fois que je suis arrivé sur Dena, ça faisait des années que ça existait. Il y a eu d'autres quotidiennes avant. En plus, j'ai pu croiser beaucoup de gens de l'équipe qui faisaient partie des autres tournages auxquels j'avais participé avant. Donc évidemment, Demain nous appartient était un autre confort, ça pour le coup, alors que les autres, je faisais partie du début de l'aventure, donc presque de la mise en place de l'aventure. Là, DNA, ça fait un moment, donc je suis rentré dans le TGV qui était déjà en marche, donc c'était en effet pour moi un petit peu plus confort en effet.
Aux premières lectures, quand on t'a expliqué un peu qui allait être Arthur, qu'est-ce que tu t'es dit?
Bah, disons que c'est pas la première lecture, parce que déjà c'est Isabelle qui est la productrice artistique qui m'avait appelé 6 mois avant pour m'en parler, pour me dire est-ce que ça m'intéressait de venir faire un clin d'œil dans la série et quels gens pourraient m'intéresser. Et c'est vrai que quand j'ai parlé d'ambiguïté, de personnage, d'avoir de plusieurs facettes, que ce qui m'intéressait c'était pas d'être forcément avec une seule facette, elle est revenue 6 mois après avec cette proposition de personnage, et pour le coup moi je trouvais ça assez jouissif, connaissant bien cet exercice là ce qui m'intéressait c'était de pouvoir venir avec un nouveau défi. De toute façon, je marche au défi, moi. Donc un nouveau défi, ou sur une quotidienne, de pouvoir toujours essayer d'avoir une autre toujours un deuxième regard sur ce que j'allais jouer. Et du coup, ils ont été très à l'écoute, et même avec Nicolas Brossette, qui est l'auteur référent, ils ont été très à l'écoute, et c'est là où ça a été aussi agréable, plus agréable de travailler, puisqu'on a été ils ont été à l'écoute de mes suggestions de départ.
Alors, il est vrai que t'as profité, toi, d'entrer de ce nouveau décor exceptionnel, celui des Halles, qui a été reconstitué en studio. Il est magnifique, puisque, comme il y en a qui le disent dans la série, de façon des fois un petit peu mesquine, le vendeur de tiramisu.
Oui, bah, c'est le cas. De stand italien.
Il est super, ce décor.
Ah oui, il est extraordinaire, le décor des Halles. On a l'impression qu'ils ont fait ça en peu de temps, alors que non, ça fait un moment qu'ils travaillaient dessus. Et puis, c'est vrai que... En plus, moi, quand je suis arrivé, c'était le début du montage du décor, donc j'ai pu voir un peu toutes les étapes de la construction, des murs, puis des stands, puis après des détails dans les stands. Donc, ça, c'est incroyable à voir. En plus, j'avais vu ça à l'époque de Plus belle la vie, avec toutes ces constructions de décors progressives. Donc, c'était c'était impressionnant. C'est un décor pour moi que je trouvais très très impressionnant.
À quel moment t'as su ton personnage allait mourir?
On savait dès le départ qu'il y avait des grandes chances qu'il allait finir comme ça, hein, dès le début, parce que j'avais un contrat d'1 an et on en avait parlé, et qu'il voulait en faire un grand méchant, et un grand méchant qui allait donc passer l'arme à gauche. Hein. Mais dès janvier, il m'avait prévenu qu'ils étaient en train de travailler sur la sortie de ce personnage-là. Donc je savais assez rapidement que il fallait pas trop que je m'y attache, quoi.
Maintenant, on s'y attachait. en tout cas. C'est vrai que les derniers temps, on savait plus à quel saint se vouer. On s'est dit, mais voilà, mais qu'est-ce qui va faire? Alors, évidemment, la question que tout le monde a, après s'est posée, mais qui l'a tué? Qui en veut à ce point-là? Il y a eu toutes les théories possibles et imaginables qu'on fleurit effectivement sur les réseaux, et on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, du coup.
Ah, sûrement, sûrement.
On va voir tout ça en flashback.
Exactement, oui, voilà, on va découvrir déjà sur 2-3 flashbacks de comment ça s'est passé. Donc on aura quand même évidemment une résolution, même si elle s'est finie un peu vite et un peu brutale pour beaucoup, ce que je comprends. Voilà, il y a la résolution, va être quand même il y aura une explication plutôt assez claire sur ce départ un peu brutal évidemment.
En tout cas, nous c'est vrai qu'on est un petit peu déçus qu'il soit parti aussi vite, mais Arthur va rester, c'est sûr, en tout cas dans les mémoires des téléspectateurs, comme étant maintenant un des grands méchants après le tueur aux alliances, etc. Les grands méchants de demain nous appartient. Mon cher Ambroise, on va parler de toi maintenant. Quels sont tes projets pour les mois à venir ?
Oh bah là, pour les mois à venir, si j'essaie de me relancer dans un nouveau projet de court métrage, parce que ça fait quelques temps que je me suis lancé dans la production et la réalisation, bon, dans lesquels je joue aussi, mais de court métrage qui font partie en fait, ces 4 modules qui font partie d'un long métrage.
Est-ce que t'aimes bien réaliser aussi?
Ah oui, ça fait depuis très longtemps que je réalise, et pour l'instant j'ai aussi des projets de séries en réel, mais en attendant que tout ça devienne très concret, parce que évidemment en France tout ça est très très long. Du coup, pour m'occuper, je continue la réalisation de courts-métrages à côté, mais pour pas faire que du court-métrage, parce que même le milieu du court-métrage devient très difficile, comme politiquement tout devient très compliqué et qu'on n'est pas forcément au service de la culture. J'essaye un peu de détourner le fait de pas faire que du court-métrage, mais que le court-métrage devienne, qui appartienne à un projet plus long, pour essayer de faire exister au maximum les projets que je réalise. Voilà.
Tu sais qu'il y a une petite tradition dans Demain nous appartient quand même, c'est que souvent ils font mourir des personnages et après ils reviennent réaliser. Ça a été le cas d'Alexandra Naoum, qui jouait Louise, ou encore de Laurie, hein. On sait toujours pas si Lucie est vivante ou pas, on l'a vu se jeter en haut d'une falaise. Mais est-ce que toi, en tout cas, si on te proposait de réaliser quelques épisodes d'une quotidienne comme ça, est-ce que t'aimerais le faire ?
Eh ben, figure-toi que c'est pire que ça, parce qu'en partant, je leur ai proposé. Donc maintenant,
tu vois, j'étais pas loin.
J'ai lancé oui, pour cet exercice-là, ça dépend où, mais en tout cas, que ce soit Plus Belle ou Dana, maintenant que je connais les gens, ça m'amuserait comme exercice de venir. C'est quand même un exercice pas évident, parce que c'est un projet sur lequel tu ne choisis ni les comédiens, ni les décors, ni les scénarios. Donc c'est quand même un exercice qui est très difficile en soi par rapport à ça, mais en tout cas sur ces deux projets là c'est là où ça m'amuserait. DNA, en effet, j'ai proposé à Isabelle en lui disant, écoute, voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir de me lancer dans cet exercice là après c'est pas moi qui décide évidemment.
Ce qui serait drôle, c'est que t'ailles réalisé des Ici tout commence et les séquences de l'Hôtel Jourdain. Ça serait tellement drôle que tu drives justement Aurélie Vanek, avec laquelle t'as été partenaire tellement d'années.
Ah ça oui, c'est sûr, bah c'était 9 ans de vie commune, ouais.
Ça serait drôle que tu la drague.
Ah ça oui, oh bah tous les copains, de toute façon ça serait rigolo. Mais oui, en tout cas la réalisation, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai aujourd'hui envie de le un petit peu plus de me concentrer. Voilà.
Merci beaucoup, Ambroise. On te dit à bientôt.
Bah, merci à toi, à bientôt, comme toujours, évidemment, avec plaisir.
Mais oui, quand tu veux, tu sais, l'antenne est ouverte. Merci beaucoup. Et puis on continue à suivre, évidemment. Demain nous appartient à plein d'intrigues cet été qui nous arrive, dont une tournée à Agde, justement, qu'on va suivre tout au long de ce mois de juillet. Merci. À très vite.
À très vite.
Allez, ne bougez pas, l'équipe de Permis de détruire débarque. Eric Fraticelli, Philippe Corti et Michel Ferracci dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Réponse, me noyais dans la fête. Les yeux tout doux, tu reviens le cœur en miettes. Y'a plus de nous, t'arrives après la tempête. T'as perdu la raison, mais je vais pas replonger. Je connais la chanson, t'es trop désolée. Maintenant t'as mon temps, je veux plus t'entendre. C'est trop touchant de voir tout. Bataille, pas sauf que ça vaille. Je fais pas les cons, je fais.
certaine manière élégante. Quand tu te lances, je prends mes jambes à mon coin. T'as mon temps, je veux plus t'entendre. C'est trop touchant de te voir tout tenter. T'as pris les rames et le bateau tangue. Et là tu me tends. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Dis alors, mais je suis déjà partie. Pourquoi n'oublie pas tes valises, ni ton petit cœur en argile. J'ai pas besoin de toi dans ma vie. Tes valises sont trop tard. Et ton petit cœur en argile, c'est trop tard.
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné aujourd'hui s'appelle Permis de détruire, quatrième film qu'on promotionne d'Eric Fraticelli, qui est notre invité aujourd'hui, fidèle avec nous. Bonjour Eric.
Oui, bonjour déjà, et vous aussi fidèle avec moi, donc ça fait plaisir.
Ben oui, c'est une aventure qui dure maintenant depuis quelques années. Il n'est pas venu tout seul Eric, il est venu avec Michel Ferracci qui est là. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alias Tutu. Et puis alias Loulou, c'est Philippe Corti qui est avec nous aussi. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois. Alors évidemment, on va retrouver l'humour corse d'Eric dans ce film. Et puis aussi toute la symbolique de l'environnement et des problématiques que l'on peut trouver en Corse. Mais déjà, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous a fait plaisir de vous retrouver tous encore une fois? Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a une bande d'amis avant tout aussi qui tourne là.
Oui, mais c'est du cinéma tout ça. Faut pas croire.
Faut non, pas croire tout ce qu'on voit.
Non, mais bien sûr, ça fait toujours plaisir. Quoi. C'est comme quand on fait des choses entre potes. Quoi. Tout le monde connaît ça, voilà, c'est pareil, voilà, c'est comme un barbecue.
Bah oui, c'est la bande à Eric, hein, du coup, hein. Michel.
C'est ça, et c'est toujours un plaisir de se retrouver, et comme on disait tout à l'heure, on a toujours envie de se retrouver, et on espère se retrouver encore et encore.
Philippe.
Moi, je vais être un peu plus profond que les deux, parce que il faut que je relève le niveau. Je me suis rendu compte qu'Eric avait créé un lien avec cette bande et le public, c'est-à-dire qu'on fait partie de leur vie. Ils ont l'impression de nous connaître et ils nous demandent chaque fois, vous êtes tous encore les mêmes dedans? Est-ce que vous serez encore dans le prochain les mêmes? C'est fabuleux d'avoir créé ce lien.
Oui, on va retrouver Michel, Philippe, ouais. Jean-François Perron aussi qu'on embrasse, qui était là pour le dernier, pour le clan notamment. Et c'est vrai que c'est toujours le plaisir de retrouver cette bande qui accueille des petits nouveaux à chaque fois. Parce que si c'était Didier Bourdon qui était là sur Permis de construire, sur Permis de détruire, ce coup-ci, on accueille Patrick Timsit et Canmerade, deux jeunes comédiens qui débutent dans le cinéma.
Mais qui promettent.
Mais très prometteur, effectivement. Alors, on va planter un petit peu le décor. Patrick Timsit est installé en Corse. Il est dentiste et va accueillir donc dans son cabinet médical un copain psychologue qui est Canmerade. En Corse, rien ne va se passer comme prévu puisque l'implantation d'une centrale électrique va mettre le feu aux poudres. C'est le cas de le dire.
Voilà, exactement. Ça va être le problème qui fait que tout ce qui va se passer dans le film, ça part à cause de cette centrale qui va être construite. Et puis il y a toutes les petites histoires entre les personnages. Moi, c'est ce que je préfère, hein. les petites histoires, les personnages, ils sont attachants, hein. Et comiques en plus, mais pas que comme j'aime bien le faire, un peu comme on trouve ça dans les comédies italiennes.
Et notre tutu lui, va essayer de faire face à son bégaiement.
Ah oui, là il bégaye plus. Non, oui, le personnage, il a été développé, ça m'a fait plaisir de le jouer, quoi.
Vous allez voir ce que c'est que la marche afghane. Je ne dis rien d'autre. Vous le découvrirez en voyant le film.
Vous savez que c'est une vraie thérapie. C'est la marche afghane, ça porte vraiment ce nom. C'est une vraie thérapie pour se débarrasser du bégaiement.
Philippe, alors c'est le Portugais qui est en train de faire les travaux dans le cabinet médical. Alors lui, il met du carrelage du sol au plafond.
Ah ben c'est le problème des carreleurs portugais. Mais moi, j'ai appris avec ce personnage de Loulou, depuis que je fais le portugais, que les Portugais, en fait, ne chuchotent jamais. Il murmure. Voilà, donc Eric m'a fait ce cadeau empoisonné d'apprendre l'accent portugais, parce qu'un jour il m'a dit « Écoute, poto, j'ai un truc pour toi, mais est-ce que tu sais faire l'accent portugais ?» Il y a ça et la moustache. Alors, avant les films, que ce soit le permis de construire ou le permis de détruire, il y a vérification de la moustache tous les jours, en visio, hein.
Il faut qu'elle soit raccord.
Ah oui, FaceTime, là. FaceTime. Puis là, ne touche plus. Et le deuxième, c'est, je lui ai envoyé des textos vocaux pour tester l'accent portugais. Il dit, non, là, ça fait brésilien, poto. Faut changer. C'est pas le même et tout. Voilà. Donc, c'est le souvenir que j'ai.
Eric, on dit que la comédie, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. T'es à ta quatrième en tant que réalisateur. Est-ce que tu confirmes?
Bien sûr. Bien sûr. J'ai deux projets qui ne sont pas du tout des comédies. C'est pour me reposer un peu. Bien sûr que c'est le plus difficile. Ceux qui disent le contraire, c'est soit ils en ont jamais fait, soit ils sont pas tout à fait honnêtes.
Moi, je vais dire, la comédie, c'est très dur. Parce que pleurer, on pleure tous de la même chose, pratiquement. Mais on rit pas de la même chose. Donc, faire rire les gens, c'est très dur.
On n'est pas forcément réceptifs tous aux mêmes formes d'humour. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être totalement différent.
D'abord, Eric, c'est très bien ça, c'est que c'est une horloge de précision. La vanne, si elle ne tombe pas au bon moment, pas avec le même temps, même la même vitesse, ça fait pas rire. Ça marche pas. Il s'attache à ça. Quand il voit la scène, il pense déjà au montage. Et il vous dit, ah non, ça, je pourrais pas, poteau, je pourrais pas la coller, refais-moi là. Donc ça, c'est un premier point. Et après, il y a une citation de Ventura qui dit, on peut tous faire semblant d'être méchant ou en colère. Parce que c'est très compliqué de faire semblant d'être drôle. Voilà.
Et oui, c'est pas faux. Comment il est Eric en tant que réalisateur quand il est pas à l'écran et que c'est vous qui êtes? Michel?
Il est exceptionnel, il est généreux, il donne tout, il prend son temps. Quand il y a quelque chose qui va pas, il vient, il explique. Non, vraiment, pour moi, c'est mon ami, hein, mais j'adore travailler avec Eric parce que c'est un super réalisateur.
Il a une oreille absolue, quasiment. Tu disais dans une précédente interview d'un de mes confrères qu'il entendait tout. Alors en plus de sent tout, il sent tout, mais il entend tout aussi alors.
Il entend tout, il sent tout, c'est vrai. On peut pas tricher, y a rien qui lui passe à côté.
Moi, il sait déjà qui c'est qui a fait la connerie avant de savoir que je l'ai faite. Moi, en tout cas, ce qu'il m'a apporté, c'est la rigueur et d'essayer de me canaliser. Parce que quand je suis une bombe à explosion, moi, j'explose d'un coup et il m'a dit « canaliser ». Alors, je m'y attache, c'est compliqué, mais il a ça, la rigueur. On peut, sans travail, il n'y a rien. Voilà, donc je suis à l'heure, je fais mon taf. Après, il nous laisse une liberté, mais quand il sait ce qu'il veut, il faut qu'on lui donne ce qu'il veut. Et c'est normal. Voilà, oui. on est des soldats.
Mais il prend son temps. Prend son temps. Tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il va continuer sans s'énerver.
On va parler de Santou, on va parler de Tutu et on va parler de Loulou dans quelques instants. Permis de détruire, ça sort mercredi au cinéma. On revient juste après avec vous les garçons. Mais d'abord, on écoute la bande-annonce. À tout de suite.
Je voudrais qu'on fasse sauter la maison du mec de France Énergie.
Mais t'as craqué ou quoi?
J'ai tout quitté pour venir m'installer ici. Je fais travailler les gens du coin, je suis sympa avec tout le monde. Je suis pro-Corse à mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire ici pour être considéré comme un Corse?
Bah faut être Corse.
Bon Achille, je te présente mon ami Olivier.
Bonjour monsieur.
Il est psy.
J'aime pas les psys.
Allez, c'est notre spécial permis de détruire, ça sort mercredi dans les salles. Eric Fraticelli, Michel Ferracci, Philippe Corti sont avec nous et sont nos invités aujourd'hui. Alors Eric, on va parler un petit peu de Santou. Moi j'aimerais bien que Eric Fraticelli nous dise comment il le voit lui, Santou.
Alors, bon, ben, c'est un mec de village qui tient le bar. Il peut être rigide comme il peut être altruiste. Il peut être intransigeant comme il peut être hyper généreux. En fait, c'est un peu les Corses... C'est tout ou rien, ça dépend de qui, à qui on a affaire et pourquoi.
Moi je dirais droit, fiable et bon ami.
Oui, oui.
Quand on lui fait pas l'envers.
Ouais, tout à fait, voilà. Et puis quand cet ami-là lui demande de rendre service, mais qu'il sent que ce service, ça va pas vraiment lui rendre service, il lui dit non. Là, c'est un peu ce qui se passe dans le film.
Oui, c'est vrai, effectivement. Alors, Michel, alors comment tu le définirais toi, Tutu?
Alors, déjà, Tutu, c'est un personnage dans la vie qui existe. Mais là, pour le coup, c'est un fidèle de Santou. Il travaille au bar avec lui et il suit Santou partout. Hein. Après, c'est un personnage qui est attachant.
Assez solaire, moi, je dirais aussi.
Assez solaire. Voilà, il essaye de se surpasser. Il va demander arrêter de bégayer. Après, quand il va voir que les gens se moquent de lui, il sait plus quoi faire. Donc, je le vois comme un personnage attachant et très touchant.
C'est vrai. Philippe, Loulou.
Ben, Loulou, il existe partout, dans toutes les entreprises de BTP en France. Hein, vous en avez partout, des Loulous. Et les Portugais, ils sont joviales. Il y a rien de très grave pour eux, à part le carrelage.
Tu t'es inspiré d'amis portugais ou de gens que tu connaissais? Peut-être d'autres personnages dans d'autres films?
Non, bien sûr, oui, j'ai beaucoup de potes portugais. Mes parents étaient enseignants et c'était à l'époque où il y a la vague de portugais qui est arrivée. Donc, d'ailleurs, tous mes potes portugais me félicitent, hein, pour l'accent. Déjà, ils pensent qu'il est corse. Voilà. Parce que dans le premier, il dit, je suis corse, moi. Il a quitté à l'époque de la révolution des œillets, il a sauvé sa vie, il gagne des sous, il a construit sa maison au Portugal, il est heureux d'être là. Il veut, tu veux quoi? Je tourne le plastique, voilà. Tu veux la bouteille de gaz? Je tourne la bouteille de gaz. Il s'en fout, loulou.
Voilà, c'est la personne qu'on aime avoir dans notre entourage, quand même, qui trouve des solutions à tout. Effectivement. Eric, comment on fait pour arriver à faire un film quasiment par an? Moi, j'ai l'impression que c'est un boulimique de travail, quand même, hein. Et là, cette année 2, oui, d'accord.
En fait, comment on fait? Ben, on prend patience, parce que comme ça va pas assez vite, parce qu'on pourrait en faire 2.
Et on prend patience, alors qu'il nous sort 1 ou 2 films par an, quand même.
Ouais, non, mais là, par exemple, je vais en faire un autre en octobre, et je vois que ça traîne. Je deviens fou. Je dis, il est écrit, il dit, bougez-vous. C'est largement faisable d'en tourner un en mars et l'autre en octobre. Donc, qu'est-ce qu'on fout, quoi? On glande, là. C'est un métier de glandeur, c'est pas possible.
Et alors, le clan 2 est sur les rangs, j'ai l'impression, qui est bien, bien entamé, même.
Ah, bah oui, on vient de le tourner, là, le clan 2. Et ça va être encore, voire plus déjanté que le 1. Je croyais que c'était pas possible, mais on y est arrivé. Et puis après, j'espère en faire un autre en octobre. Parce que
on va avoir Sophie Marceau ou pas dans le 2?
Non, là, on change d'histoire, là.
Est-ce qu'on avait rigolé avec ça?
C'est vrai. Non, mais ils pensent à autre chose, là. C'est un autre projet qu'ils ont dans le 2. Ils comptent faire un casse monumental.
Bon, écoute, on a hâte de voir ça et on sera l'année prochaine, évidemment. Sortie, j'imagine, plutôt 2027, hein, parce que, franchement, il faut le temps aussi, hein, de les monter après derrière. Michel, les projets.
Alors, des projets, j'aime pas trop en parler. On vient de finir de tourner le clan et après, la suite, on verra.
Bon, la bande d'amis continue. Philippe.
Des projets, ben, j'aimerais bien.
Toujours du mix aussi.
Oui. Les projets, ben, nous, on est attachés à la roue, à la carriole d'Eric, hein, c'est-à-dire que nous, on est des soldats. Et puis, de toute façon, moi, j'ai aussi mes soirées. On continue parce que plus je fais de films, et plus les gens me demandent en soirée. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais là, je ralentis les soirées pour faire des films. Voilà, moi, je suis heureux, je suis tout bien. J'ai juste, il faut que je vérifie la serrure de la porte du garage d'Eric pour l'empêcher de sortir et qu'il continue à écrire. Voilà.
On l'enferme.
Oui, il faut l'enfermer pour qu'il travaille.
Bon, en tout cas, Permis de détruire sort mercredi au cinéma. Patrick Timsit, Cadmerade à vos côtés. On retrouve évidemment toute la bande à Eric avec Jean-François Perron qui est pas là aujourd'hui mais qu'on embrasse aussi. Toute la bande, on va la retrouver au cinéma mercredi pour notre plus grand plaisir. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Puis on vous dit à bientôt.
Merci beaucoup.
Et oui,
l'année prochaine.
On se quitte plus, voilà, l'année prochaine, voire peut-être avant. Hein, parce
que... ouais, on sait pas. Merci Philippe.
Merci de tout à tout le monde.
On va quand même pas laisser 2 pinsouilles plastiquer une maison sans rien faire. On va passer pour qui? On est encore chez nous quand même, non?
Que tous les corses qu'il y a, tu vas te trouver qu'un pinsou dedans.
Je suis pas son fiancé, c'est ma cagna.
Allez, mettez les gaz.
Ça va être compliqué. Dans cette bagnole, il y a moins de gaz que dans un briquet.
Lundi prochain dans Chute on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, ça sera l'avant-dernière de la saison de Chute on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir Francis Huster qui viendra nous parler de Zodiac, évidemment. Et l'actrice française qui a fait carrière aux États-Unis, Lydie Denier, qui a incarné Jane dans Tarzan, sera également notre invitée exceptionnelle pour revenir sur sa carrière.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.